En fait, c'est pas des conférences, c'est des saunas à plusieurs.
Avec plus de vêtements.
Au début. Ah oui, alors je tiens à vous avertir pour que vous puissiez avoir un choix quand même, c'est important, le libre arbitre, même en fantasy. Pierre et John ont des objectifs très précis dans cette conférence. Pierre, je peux dévoiler cet objectif qui est de que ce soit la conférence dont les femmes ressortent enceintes. Alors bon...
Car c'est quand même la lecture plaisir.
Donc messieurs, nous on n'est pas d'accord. Donc ça serait... Mesdames, ça ne sera pas nous. Donc c'est à l'audience qu'il faut faire plaisir et l'audience c'est vous. Donc on va essayer. Donc comme je le disais, j'ai souvent du mal à faire des conférences complètement sérieuses. Je pense que c'est important qu'on partage des bons moments et qu'on rigole un peu ensemble, puisqu'on peut pas tous coucher ensemble là, ça va se faire. Donc il nous reste le rire.
D'ailleurs, ils se méfient, ils ont ouvert les portes.
Il nous reste donc le rire. Alors, par quoi on va commencer ? Alors, John Lang m'a dit qu'il ne souhaitait pas aborder cette question sous un angle particulier.
Non, parce que moi, je voulais que ça soit rond.
Parce que les angles, ça fait mal. Alors, faire plaisir, est-ce que c'est votre but ? Voilà. Est-ce que tout simplement, quand vous écrivez, c'est quelque chose que vous avez en tête, vous faire plaisir à vous, d'abord, ou peut-être pas ? Peut-être que c'est une douleur d'écrire, j'en sais rien. Ou est-ce que vous pensez à au plaisir de la lecture de ceux qui vont découvrir vos œuvres, vos chansons ?
Moi, je propose qu'on fasse commencer notre invité parce que lui, il aura l'air plus sérieux que nous.
c'est parce que vous le connaissez pas. Je suis depuis le petit déjeuner ce matin avec lui et avec des gens qui sont encore là. Il n'est pas sérieux du tout.
Good afternoon. So when I started this conference, I made a promise. Can you guys hear me through this?
Is it good?
That's probably better. now it's not on film. You can't tell. There's no record. And okay, fine. I'll change tracks just a smidge. On a more serious note, I know I didn't finish that. I'm being very difficult. Just scratch all that. Yes.
I was fixing the microphone.
I deserved that. Yes, absolutely. We are supposed to, I believe Tertullian said, he was a Roman philosopher, and he said that literature should delight, then teach. And so delight is absolutely part of what we do. It should be fun. It should be funny. There should be little asides. And that's part of the whole deal. And then teach. There should also be a point to it. So that's all. And I promised my translator that she would get to say the word urine.
So what's your guy, the Roman guy?
Tertullian.
Tertullian? Yeah, great. Alors oui, je pense que c'était Tertullian qui disait que la littérature devait d'abord faire plaisir et ensuite enseigner quelque chose. Alors effectivement, on devrait s'amuser en lisant, mais on devrait également apprendre quelque chose. Et je promets à mon interprète que j'arriverai à utiliser le mot urine avant la fin de la conférence.
At first, I threatened that I would make her say it on every panel, but I took mercy.
Et donc, à l'origine, je lui avais promis que je me servirais de ce mot à chaque plateau, et finalement, j'ai eu pitié d'elle.
Why?
I'm such a nice guy.
I'm nice, but... parce que je suis un mec sympa.
Alors, en tant que mec sympa, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous prenez autant de plaisir à faire aussi mal à vos personnages ? Est-ce qu'on peut parler de votre sadisme là entre nous ?
Because fiction that's all about the brighter side of life is boring. It's simply not interesting to hear. So there was this day, and I woke up, I felt rested. And then I went, and my wife was happy with me, and she served me good things. And then I went, and my boss gave me a promotion, and he said, take the rest of the day off. That's not interesting. It's only interesting if you get to see the stuff happen to them that you wish wouldn't happen to you. I just find that much more intriguing.
Alors en fait, le truc, c'est que c'est pas du tout intéressant de dire voilà, c'était un beau matin, je me suis réveillée, j'étais tellement reposée, je suis allée voir ma femme qui était tellement heureuse de moi et après je suis allée voir mon patron et il m'a donné une promotion. Non, ça c'est vraiment nul. En fait, ce qui est intéressant, c'est de voir arriver aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'il nous arrive à nous.
John, est-ce que vous définitivement l'angle est celui de l'amusement, du plaisir, de l'humour? Et que donc, forcément, vous êtes sûr de réussir puisque vous faites rire et vous faites plaisir.
Ouais, alors justement, ce qui a été dit, j'avais pas fait gaffe, mais le fait que, moi déjà, j'ai été brimé dans ma plus tendre enfance parce que les lectures qu'on m'a infligées, c'était pas du plaisir. C'est apparemment un truc que l'éducation en France n'a pas compris, c'est que pour que les gens se mettent à la lecture, il faut pas les forcer à lire des trucs qu'ils ont pas envie de lire. Mais il faut leur proposer des choses qu'ils ont envie de lire. Et moi, je n'avais pas envie de lire ce qu'on me proposait. Et le jour où j'ai commencé à lire pour mon propre plaisir, c'était en découvrant pas forcément la fantasy, mais tout le panel de lecture de science-fiction et de lecture de l'imaginaire qui m'avait jamais été proposé, que j'ai découvert par hasard. Et à partir de ce moment, moi, j'ai découvert le plaisir de lire et donc, par la même occasion, l'envie d'en faire moi aussi. Et Tu demandais par rapport à comment on se met à écrire. Moi, j'écris vraiment pour me faire plaisir à moi, parce que déjà, c'est hyper difficile de faire plaisir à tout le monde.
En tout cas, c'est ambitieux.
Alors, particulièrement pour les gens qui travaillent sur Internet, c'est encore plus vrai, puisqu'on a directement en pleine tronche les retours des gens. Quand on poste quelque chose, quand on fait quelque chose, il y a tout de suite les trolls qui sortent de l'ombre en disant « C'est pourri !» Voilà, donc... De toute façon, quoi qu'on fasse, il y a toujours des gens qui râlent. Donc ça, j'ai compris très tôt. Et donc, moi, j'écris pour mon plaisir. Quand j'ai commencé mes trucs, j'ai commencé parce que ça me faisait marrer moi. D'ailleurs, je ne pensais pas que ça intéresserait quiconque à l'époque. Maintenant, j'ai du lectorat, mais ça ne change pas le fait que j'écris des trucs que moi, j'aurais envie de lire ou je me souviens de ce que j'aurais eu envie de lire si j'avais été plus jeune et que j'avais découvert la lecture. Puisque j'ai envie en fait, d'amener des jeunes à la lecture qui ont le même problème que moi, c'est-à-dire qu'on leur oblige à lire des trucs qu'ils ne veulent pas lire, et ils pensent que la lecture, c'est nul. Et donc, voilà, les amener à l'imaginaire pour qu'après, ils découvrent d'autres auteurs, d'autres, et surtout le plaisir de lire, justement.
Hélène, vous ne faites pas qu'écrire, vous dessinez aussi. En quoi c'est un plaisir qui se transmet ?
Vaste sujet. au niveau du dessin, je pense que la notion de plaisir dans la réalisation d'une illustration est quand même très importante. C'est un plaisir visuel avant tout, c'est-à-dire que j'ai envie de composer une image, une illustration, un paysage, peu importe, qui soit agréable à l'œil, qui soit beau, qui me semble en tout cas pour moi beau, esthétique et qui me fasse plaisir. Et c'est aussi ce que j'ai envie du coup de transmettre, c'est-à-dire que les gens prennent plaisir à regarder une belle image comme on regarderait une belle photo. Voilà.
Pierre, est-ce qu'après une telle carrière, après autant de livres et après autant d'années à écrire, on continue à se faire plaisir avec ce qu'on produit est-ce qu'on a toujours en ligne de mire le plaisir du lecteur ?
Ah, le plaisir du lecteur, oui. Par contre, j'écris pas du tout pour me faire plaisir. J'ai vraiment envie d'écrire des livres que le lecteur lui appréciera, ou du moins qui vont pas représenter pour lui une expérience trop douloureuse et qu'il reviendra dans mon épicerie quoi. C'est vraiment moi. Mais moi quand j'écris c'est pas désagréable, c'est pas douloureux, sinon je ferais autre chose. Je suis pas un auteur torturé, mais par contre ça demande de l'effort, de la concentration, de la réflexion. C'est quand même quelque chose qui demande que je fasse ça avec application. Et même si j'aime mon métier, j'ai pas l'envie d'aller bosser tous les jours. C'est pas. Mais et pourtant faut le faire. Alors, par contre, faut surtout pas s'écouter. Hein. Mais voilà, le plaisir, il est vraiment. Moi, j'essaye. C'est vraiment à celui du lecteur que je pense le plus, en essayant d'avoir à la fois des intrigues divertissantes et un style plutôt agréable à lire ou évocateur. Enfin, voilà, essayer de faire des bons bouquins, quoi.
John, you were just saying something about how when you get books assigned to you at school, that it takes the pleasure out of them. Now, would you like it if your books were assigned to school? Like, would that be a good thing? Is it just that the wrong books are assigned at school? Or is it that having books, you have to read this book, damages the book itself in some way?
Il a posé une question à John, la traductrice.
Donc, question. Je m'en vais.
Et on va se faire plaisir.
Alors, John, vous avez dit tout à l'heure qu'on vous avait forcé à lire des livres à l'école et que du coup, vous n'en aviez tiré aucun plaisir. Alors, est-ce que vous aimeriez que vos livres soient imposés à l'école ou est-ce que c'est parce qu'on impose les mauvais livres que les jeunes n'apprécient pas ou est-ce que c'est juste le fait d'imposer qui pose problème?
Ouais, moi c'est vraiment le fait d'imposer parce que après tout, les gens qui n'aiment pas la fantasy, je vois pas pourquoi on les obligeait à lire de la fantasy. Le truc c'est que dans toute ma scolarité, j'ai vu une seule fois un prof de français proposer une liste de livres avec des genres différents, de longueurs différentes. Et là, on se disait ah bah voilà, on nous prend pas pour des cons. On a le choix de, je sais pas, il y avait une quinzaine de livres. Bon, c'est pas extraordinaire, mais il y avait un peu de tout. Et au moins, c'était une personne qui ne disait pas systématiquement « La littérature de genre, c'est pourri, vous allez lire ça, et puis sinon vous êtes des ratés. » Voilà, en fait, il y a quand même une prof de français qui m'a dit « Vous lisez de la science-fiction, vous n'arriverez jamais à rien !» Bon, bah, depuis elle est morte. Voilà, mais... Voilà, donc
fini par un dragon.
C'est ça, mais le fait est que imposer de la lecture, là on est sur le sujet de la lecture plaisir, si tu commences le bouquin, déjà rien que le titre te donne pas envie, la couverture te donne pas envie, tu lis la quatrième de couve, t'as encore moins envie, et là on te dit, ça fait 450 pages, et toi t'as 12 ans. Bon, moi je suis désolé, mais au bout de 10 pages, j'avais envie de fuir, quoi. Et heureusement que j'ai découvert des cartons avec des livres de SF dans un grenier. Et parce que là, je me suis dit, ah, mais voilà, il y a d'autres trucs. Il y a des livres plus courts pour commencer, c'est bien. Et puis voilà, on se fait plaisir. Il y a des aventures, il se passe des trucs, etc. Mais le fait d'imposer, je trouve ça vraiment, ça ôte le plaisir, effectivement.
Brent, Pierre parlait du fait que ça reste un travail d'écrire et que... Ça peut être plaisant, mais qu'il y a des jours moins faciles que d'autres. Est-ce qu'il y a encore dans votre vie de lecteur, alors j'espère que non, parce que John nous a bien fait comprendre que ce n'était pas la peine de se forcer à lire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a encore dans votre vie d'auteur des lectures qui ne vous feraient pas plaisir? Je ne sais pas, de la recherche, la feuille d'impôt. Est-ce que vous lisez encore des trucs? Est-ce que vous lisez encore des trucs qui ne vous font pas plaisir? Voilà, je savais que ça marcherait.
I actually try to keep a fairly wide reading diet, I guess you'd say. Like I'll pick up a romance novel that's done really well. Let's see. The Layover was one of them. This was a few years ago, or I'll pick up some kids' novels, things that I wouldn't usually read. There's a series of books called the Bluford High books, and they're all about these 12 or 13 year old kids, and I'll try to read things that I don't really like I don't really like or I wouldn't immediately search out to see what they do because certain books that do well, they do well because they connect to readers in a certain way. They speak to people. They touch their hearts. So I like to read things that are not strictly for pleasure. It's kind of work to do. But then sometimes you also, by reading something that you wouldn't normally read, you go, you know what? There's really some value in this. And I would judge it. I'd look at the cover and be like, this is stupid. But then you give it a chance and you read it and you go, actually, I see why people love this. Reading the Bluford High books, you know, for kids, there's no cynicism in it. But the kids have real problems and they're really trying to struggle. They're struggling to be better people and they're doing things wrong. But it's not cynical. It's not jaded. It's not funny. And it's not complicated. But it's got a lot of heart. So I actually really enjoyed that book. And it's, you know, for kids.
Alors, j'essaye de continuer à lire des choses assez variées. Par exemple, il m'arrive de lire de la romance ou des livres pour enfants. Alors, on a cité The Layover. Je ne sais pas si quelqu'un connaît le titre en français. Non, moi non plus.
ou sinon... Mais, par contre, j'aimerais bien le connaître. Alors, si tu pouvais...
Non, mais c'est pas grave. Des choses plus pour la jeunesse, ce qui n'est pas dans mes habitudes forcément, comme par exemple The Bluford High Books. Quelqu'un l'a-t-il lu en anglais ? Connaît le titre en français, pardon ? Non plus, d'accord, c'est pas grave. Qui met en scène des jeunes de 12-13 ans. Alors, c'est pas forcément ce que j'aime à l'origine, c'est pas forcément ce que je lirais naturellement, mais je vais justement aller chercher un petit peu ce genre de livre pour voir pourquoi certains, justement, romans ont du succès, parce qu'ils arrivent justement à connecter les gens aux personnages. Enfin, vraiment, ils font un lien entre le livre et les gens, et ils arrivent à toucher le cœur des lecteurs. Et du coup, c'est quasiment du travail, puisque c'est pas ce que je lirais naturellement. Mais en même temps, je trouve une certaine valeur à ces livres que j'aurais pas forcément lu de moi-même. Et des fois, je me dis, oui, bon, alors, vu la couverture, ça va pas me plaire. Et puis, en fait, j'essaye quand même au cas où. Et effectivement, je comprends pourquoi certains livres ont du succès. Par exemple, donc, les The Bluford High Books, c'est pas du tout cynique, mais c'est des enfants qui font face à des vraies difficultés, des vrais problèmes. Et comme c'est écrit, je pense que l'écrivain écrit avec son cœur, bah, du coup, ça se lit très bien et c'est très agréable.
Ok, mais est-ce que pour autant, vous prenez pas quand même un certain plaisir ? Enfin, qu'est-ce qui vous semble les points appuyés chez le lecteur ? Parce que, alors... Je ne sais pas très bien chez Hélène, mais il me semble que son cabaret n'est pas que joyeux et drôle. Chez Pierre, il ne se passe pas toujours des choses brillantes et heureuses pour les personnages.
Et chez moi, on meurt dans des souffrances terribles.
C'est ça. Et je ne vous parle même pas de ce que Brent fait à ses personnages. Voilà, l'urine a de temps en temps sa place à jouer. Donc voilà, vous appuyez sur des... J'ai fait une conférence tout à l'heure sur la baston et sur la violence. Vous appuyez sur des choses, sur des choses qui ne sont pas des aspects positifs de l'humain. Est-ce que ça ne vous étonne pas que ce soit ça qui fasse plaisir au lecteur, justement ?
Bah, là, moi, je rejoins ce que disait Brent tout à l'heure. C'est que les histoires heureuses ne font pas de bons... pas forcément de bons livres. C'est même plus difficile, à mon avis, de faire un livre intéressant avec une histoire heureuse qu'avec un drame. Qu'est-ce qui peut provoquer le plaisir de la lecture ? Bon, une histoire qui est intéressante, c'est une histoire avec des péripéties, des mystères, des coups de théâtre, des choses auxquelles on ne s'attend pas, et bien sûr des difficultés à surmonter. Plus les difficultés que va surmonter le ou les héros sont grandes, plus grand sera son mérite et les victoires des dix héros. Donc oui, qu'il leur arrive des choses tragiques, douloureuses, pénibles. On peut aussi se dire que un des aspects du bouquin, enfin on en parlait durant une autre table ronde, je disais que finalement on avait beau écrire des histoires de magiciens avec des dragons et des pays imaginaires, mais que notre premier matériau c'était l'humain. Lequel humain, il n'est pas toujours réjouissant. Moi, je pense que la veulerie est la pente naturelle de l'humanité, donc forcément, ça ne fait pas toujours des bouquins bien gays. Mais donc, à partir du moment où on traite de l'humain, on traite de tous les aspects, et surtout les plus sombres, qui font un très bon matériau romanesque, mais ce n'est pas toujours des exemples à suivre, ça c'est certain.
Et vos héros qui meurent dans d'atroces souffrances, John, ils le font pour faire rire ceux qui vivent leur aventure.
Ils le font parce qu'ils font des mauvais jets de dés en général. Mais ouais, en fait, avant que je commence à écrire de la fantasy, même parce que j'avais écrit autre chose avant, mais on avait discuté avec un copain à moi, on s'était dit, mais ça donne quoi un livre sans méchants, par exemple ? Eh ben, on se fait vite chier quand même. Hein. Parce que tu prends n'importe quelle œuvre de science-fiction, s'il n'y a pas un élément dramatique très grave ou un méchant, ou plusieurs méchants, bah, ça fait quand même... ouais, parce que même dans la petite maison dans la prairie, il y a des méchants.
Lily Olson.
Voilà. Et du coup, par exemple, si tu prends Star Wars sans méchant, eh ben, le mec, il est sur Tatooine, il fait son petit tour avec son speeder, il vient cultiver ses champignons, après c'est l'heure de la soupe, et puis là, tu dors. Voilà. C'est ça, ouais. Et puis demain, il faut cultiver des champignons. Donc, bon, nous, on a l'avantage dans le jeu de rôle qu'on n'ait pas forcément besoin de méchants, parce qu'il arrive des trucs dramatiques, même aux aventuriers entre eux, on a le petit côté aléatoire. Et puis, voilà, les joueurs. Donc, moi, dans mes bouquins, je mets en scène des joueurs qui incarnent des héros. C'est pour ça qu'ils sont un peu bizarres. Puisque le joueur, c'est pas tout à fait un héros, en fait. Il tire souvent la couverture à lui et il essaye des trucs. Voilà. Et l'idée, c'est que souvent, ça échoue. Hein, j'en vois qui rigolent parce qu'ils savent. Donc, le joueur a son idée et il se dit ça va être vachement bien. Mais en fait, non, c'est lui qui induit la situation dramatique. Donc, on n'a pas forcément besoin de méchants, nous. Et les trucs graves arrivent quand même.
Mais pour Pierre et pour Brent, c'est eux les joueurs et ils tentent des trucs et leurs personnages, il leur arrive des trucs dramatiques.
I think a good story isn't always just it's kind of a strange kind of pleasure because it's not like it's pleasure on every page. Every page that keeps you turning the page is what happens next? What happens next? Oh no, things are getting worse. What's going to happen next? And it's a roller coaster, and getting to feel a whole range of experiences without having to pay the price in your real life. I mean, I'll be sitting there writing a scene, and I'm crying. You know, I'm crying as I'm writing this scene, and I'm like objectively, I sort of think, this is sort of ridiculous. These are made up people, and I made them up, and I'm crying because I decided something terrible had to happen to them. Like I could make it happy if I wanted to, but the logic of the story says this has to happen. And so there's something we learn or that we love anyway about that roller coaster of emotion. We love to see characters grow because it tells us that we can grow. That you know what, he used to do this all the time, and he made this mistake over and over and over. But by the end of the book, he's going to make a totally different mistake.
Alors, moi, je pense que c'est vraiment un plaisir étrange parce que quelque part, on n'a pas du plaisir à toutes les pages. Techniquement, ce qui se passe, c'est surtout qu'on se dit, bon, allez, c'est quoi la suite ? Parce que là, il se passe des choses affreuses. Et puis, non, ok, c'est pire. Bon, alors, c'est quoi la suite ? On se dépêche. Et puis, finalement, on passe par une montagne russe d'émotions. Et en fait, on regarde ce qui se passe, enfin, ce qui arrive à ces personnages sans avoir à en payer le prix nous-mêmes. Donc, c'est un peu ça aussi le plaisir. Mais je trouve ça parfois un peu ridicule parce que je me retrouve des fois à écrire des scènes, j'en pleure tellement je leur fais subir des choses affreuses à mes personnages. Et c'est ridicule parce que c'est des personnages que j'ai inventés, c'est moi qui décide techniquement ce qui leur arrive. Et je me dis, si je voulais vraiment, je pourrais leur faire arriver des trucs sympas, que ça se passe bien, quoi. Mais c'est pas la logique de l'histoire. Et du coup, quelque part, je pense qu'on les aime vraiment bien, ces montagnes russes émotionnelles. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'on aime bien voir les personnages qui évoluent. Parce que ça veut dire que nous aussi, on peut évoluer. Et quelque part, on voit un personnage qui fait une erreur et il reproduit cette même erreur encore et encore et encore. Et à la fin du bouquin, il fait une autre erreur. C'est mieux quand même.
Pierre. C'est d'ailleurs... Enfin, moi, je l'ai vécu comme ça. Ça peut d'ailleurs être une erreur de romancier débutant que d'être trop gentil avec ses personnages. Parce qu'on les aime. Et donc, on leur fait arriver des choses qui ne sont pas rigolotes. Mais on pousse pas le bouchon assez loin, on leur donne tout de suite une porte de sortie, on arrange les choses. Et ça, c'est une erreur de débutant. Et finalement, à moins d'être un grand sadique, il faut aller au-delà de ça et pour vraiment, vraiment, passez-moi le terme, foutre ses héros dans la merde, mais noir. Et plus on ira dans ce sens-là, meilleur sera leur succès et donc la satisfaction des lecteurs à les voir s'en sortir. Meilleurs seront leurs mérites. Mais vraiment, au début, on est toujours... Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'étais comme ça et que j'ai eu besoin que des éditeurs me disent « Mais non, mais vas-y, là, t'es trop gentil. Ils sont pas suffisamment en danger. Il faut que tu corses la chose. »
Hélène, est-ce que derrière les rideaux rouges du cabaret, il y a un roller coaster qui attend d'émotion, qui attend le lecteur?
Oui, tout à fait. C'est la même chose, effectivement, de jouer sur ces montagnes russes, comme disait Brent, émotionnelles. Bon, c'est le but du jeu, et en même temps, je dirais, les Romains disaient panem et circensem, donc du pain et des jeux, et quelque part, c'était les spectateurs assistaient au jeu comme le lecteur assiste à ce qui se passe dans les livres, et il prend plaisir à ça parce qu'il est aussi là pour vivre et pour assister à ça, presque quasiment en direct, comme un spectacle.
Est-ce que vous voulez dire, un peu vous tous, que nous sommes des espèces de Romains décadents, tous dans l'arène, en train de regarder vos personnages se faire bouffer par les lions et qu'on dit « Ouais, sauvez-le, non bah, » Est-ce que c'est ça qu'on est ?
Il y a peut-être un peu de ça, mais surtout, je crois que tout romancier, on fonctionne sur l'idée que vous, lecteurs, vous êtes des gens gentils et vous avez envie que le héros s'en sorte. Et on fonde finalement beaucoup du ressort dramatique là-dessus, justement mettant le héros dans les soucis, et pour que vous vous demandiez, mais mon Dieu, ce qui lui arrive, un, est horrible, donc ça veut dire qu'il y a une empathie qui a été créée entre vous et le personnage principal, et que deux, vous ayez envie de le voir s'en sortir et de savoir comment il va bien pouvoir faire pour s'en sortir. Mais fondamentalement, on passe sur le principe que vous lui voulez du bien. Et il se trouve qu'on ne se trompe pas. Est-ce que ce serait un espoir pour l'humanité? Je ne sais pas.
Ouais, alors moi j'ai un truc à dire sur ce sujet parce que justement quand j'ai commencé mon aventure, nous on fait du jeu de rôle, dans les jeux de rôle on meurt. Et les gens ont tellement l'habitude d'avoir des héros qui meurent pour une raison particulière, quand on regarde les films, les films hollywoodiens en particulier, quand quelqu'un meurt c'est pour une raison. Quand c'est une femme, elle a montré ses seins. Quand c'est des hommes, ils ont décidé de se séparer du groupe. Ou alors quand c'est deux jeunes, bah, c'est parce qu'ils sont allés fumer de la drogue, etc. Voilà. Ou alors c'est un noir.
Non, ça c'est dans la réalité, Pierre. Voilà, Je suis désolée de le dire.
Mais voilà. Ou alors c'est des noirs jeunes qui fument de la drogue en faisant du sexe. Enfin bon. On meurt pour une raison. Et donc, voilà, donc moi, quand mon voleur est mort dans ma saison 1, parce qu'il y avait un échec, il a fait un échec critique à un ouvrage de porte, j'ai encore des gens qui viennent se plaindre 13 ans après de la mort du voleur. Et il y en a qui ont fait un club même pour ressusciter le voleur. Voilà. Donc, quelque part, effectivement, on se dit ouais, alors les lecteurs, ils aiment bien quand il se passe des trucs, mais attention quand même, parce que. Ils sont quand même sympas, et si tu tues le moindre personnage, tu as tout de suite le fan club du personnage qui va défiler avec des banderoles et surtout chercher la raison pourquoi ce personnage-là, mais pas celui-là, mais oui, mais si je le fais sur celui-là, c'est l'autre fan club qui va débarquer, et il n'y a pas forcément une raison. Quand tu sors dans la rue et que tu te fais bousculer par un bus, tu ne l'as pas cherché.
But this is because fiction has to make sense, because real life doesn't.
Yep. Alors,
mais ça, c'est parce que la fiction doit avoir un sens, parce que la vraie vie n'en a pas vraiment.
Voilà, et le jeu de rôle non plus.
Pierre, vous vouliez. Oui.
Moi, je sais que j'ai un parmi les. C'est intéressant ce que tu dis, parce que j'ai essayé d'appliquer un peu ce principe à un moment, une sorte de critère aléatoire. En effet, quand on construit une histoire, on essaie de faire la chose bien. Et donc, l'idée, c'est que, bah, grosso modo, les scènes d'action arrivent au bon moment, et puis que les morts de personnages n'arrivent pas trop. Par exemple, tuer le héros dès le début, c'est pas forcément une super idée, tu vois. Donc, ça prouve bien qu'il faut quand même respecter 2-3 règles. Mais par contre, oui, à introduire un caractère aléatoire et du coup, particulièrement violent. C'est-à-dire que le perso qui tout d'un coup il meurt bêtement parce qu'il se prend un truc sur la tête ou tout simplement à cause de la réalité de ce que c'est qu'une bataille. Enfin, quiconque a fait 2 minutes 30 de grandeur nature et a vu ce que c'est qu'une mêlée, mais pour s'en sortir, il faut juste avoir de la chance, en fait. Et donc, c'est pas du tout un truc bien rangé, avec les joliment chorégraphié, c'est une mêlée, ça mérite bien son nom. Bref. Et je l'ai fait à deux, trois occasions, faire mourir des personnages, ne serait-ce que parce que c'était assez logique dans la situation. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est... Bon, James Bond, il est toujours capturé, puis on le laisse dans une situation impossible dont il peut se sortir. Tandis que tout d'un coup, le mec fait la pan, bon ben voilà, fin de James Bond, quoi. Austin Powers, absolument, c'est ça. Donc du coup, quand on fait ça dans les bouquins, on a un impact, alors là, pour le coup, narratif, dramatique, qui est très très puissant. Maintenant, pour ce qui est des plaintes sur les personnages qui meurent, moi, je trouve que c'est génial parce que ça veut dire que les gens se sont attachés au personnage et le regret de sa disparition. Mais moi, on m'a jamais autant reproché la mort d'un personnage que la mort d'un chat.
Société d'asservissement de l'humanité par les chats est très, très forte.
Voilà. J'ai tué un chat dans une scène où, juste avant, j'égorge un adolescent. Le môme, tout le monde s'en fout. Mais le chat, et je ne sais pas si vous vous souvenez, bah ça, mais de toute façon, c'est une règle de scénario hollywoodien, c'est on ne tue pas le chien. En l'occurrence, c'était un chat, je me suis dit peut-être que... Mais non. Et dans Independence Day, on tue la femme du président des États-Unis, mais le chien, lui, il survit.
Mais dans Je suis une légende, il n'y a rien de pire que le moment où le chien est zombifié. Et c'est absolument atroce. Je voudrais revenir sur ce que disait John sur le club des défenseurs du voleur qui est mort. Il y a quand même des personnages qui meurent. On va parler à nouveau de George Martin, mais moi, personnellement, je suis sûre que personne ne se plaint de la mort de qui, vous savez, à la fin du premier tome. Parce qu'il y a parfois des personnages qui... Come on, on l'a tous vu venir. On l'a tous vu venir, non ? C'est ça. Voilà. Il y a des personnages qui sont prévenus, qui ne suivent aucune des informations qu'on leur donne, qui se comportent de façon... Alors, évidemment, ils sont des gentils, ils sont presque des paladins, mais est-ce qu'il n'y a pas des personnages qui, de toute façon, sont voués à la mort, quoi que fasse l'auteur ?
Qui l'ont bien cherché, c'est ça que tu essaies de...
Non, je ne suis pas pour cette théorie de qui l'a bien cherché.
Well, I think the thing that's important is that the author sets the rules of the world. Like, if you let me know early on in the story, this is the kind of world where innocent people die. And if you let me know reasonably early on that, like, important people in this world are going to die, and this is just, it's a violent world. And then violence happens to a very important character late in the book. People go, well, that sucks, but I get it. It doesn't feel like a cheat. If the tone of the story is much lighter and it's just about a couple and their marital problems and, okay, they're working through it, and then somebody gets killed at the end, and then the other person gets killed at the end, it's like, that wasn't the story I was here to read, and that wasn't the story that you were promising me all along.
Alors, moi, je pense que ce qui est important, c'est vraiment que l'auteur mette en place des règles dès le départ. Si dès le départ, on a un monde où, de toute façon, il y a des innocents qui meurent, où il y a des gens importants qui meurent et que c'est un monde violent et on le sait, même s'il y a un personnage important qui meurt à la fin, on dira, bon, c'est vache, mais ok, c'est normal, quoi, ça va avec le monde que l'on lit. Par contre, si vous écrivez un roman tout léger avec un couple qui a des petits problèmes maritaux et qu'ils arrivent à s'en sortir et que tout à coup, paf, il y en a un qui meurt et 10 pages plus tard, il y en a un deuxième qui meurt, c'était pas l'histoire que vous aviez promis au lecteur quelque part.
Ah oui, mais c'est là où j'ai fait une connerie parce que j'avais prévenu personne, moi.
C'est ça, John. J'ai bien peur que tout le monde croie que vous avez triché.
Ouais, alors nous, on se marrait dans les couloirs et tout. Ah ah, on est dans un donjon, puis tout d'un coup, là. Ah, c'est ça l'erreur. Well done.
But that's actually kind of nice for you because now when you write and you put a character in danger, your fans know that could happen.
Non mais en fait, en même temps, c'est sympa parce que du coup maintenant quand vous mettez un personnage en danger, quelque part si bam il meurt, on s'y attend.
Mais ça c'est très vrai. Le fait de la mort d'un personnage et peut avoir une utilité dramatique qui est presque un message adressé au lecteur, c'est attention, prends-moi au sérieux, je peux le faire. Et si je l'ai fait une fois, je peux le refaire. Donc, et vraiment peur pour les autres. Ce monde n'est pas sûr et c'est pas parce qu'un personnage il est là au premier chapitre qu'il sera au dernier. Et c'est vrai, ce que disait Brent, et j'en suis convaincu, c'est que chaque roman ou les univers que l'on développe ont des sortes de règles internes qui se développent, des choses qui peuvent arriver et d'autres beaucoup moins. Ça place le ton du livre, ça place l'intention. Et je pense qu'il faut vraiment respecter ça assez précisément. D'où l'importance du premier chapitre qui va vraiment donner le ton de tout le reste, à mon avis.
On ne peut pas changer sur le deuxième chapitre, décider. Enfin, on ne peut pas alterner les ambiances.
Je pense que c'est peut-être que quelqu'un de très talentueux peut le faire. Moi, je m'y risquerai pas. Je préfère dire quel type de. Quand on commence à écrire ou à lire une tragédie, on sait ce qu'on lit, on sait que ça va mal finir, les règles du jeu sont fixées dès le début. Et je pense que c'est pas plus mal. D'autant plus que c'est une sorte d'honnêteté du lecteur, une honnêteté de l'auteur qui n'avance pas masqué et qui explique clairement ce qui peut se faire, ce qui peut ne pas arriver. Surprendre en trichant, c'est pas bien. Déjà, c'est tricher. Et puis, c'est assez facile comme...
Donc, John, il faut arrêter de tricher, quoi.
Arrête de tuer des voleurs.
Je suis le MJ, je fais ce que je veux.
Si on n'a pas un ta gueule, c'est magique avant la fin.
Hélène. Techniquement, tu rigoles, mais les règles de ton univers, ils sont quand même clairement placées en même temps. On sait ce qui est possible. Il y a une certaine logique, même dans le n'importe quoi. Il y a toujours de l'ordre dans le chaos, de toute façon, quand on écrit.
Hélène, est-ce que avoir un prix, ça fait plaisir? Et est-ce que ça fait plaisir autant ou plus que d'écrire? Pendant que John anime le micro.
Alors, avoir un prix, oui, c'est sûr, ça fait très plaisir. C'est vraiment une reconnaissance. Et après, bon, c'est pas du tout la même chose. Je pense que écrire, enfin, dessiner, enfin, créer, donc le plaisir, c'est quelque chose qu'on sort de soi. Et c'est quelque chose de nécessaire, de vital même parfois. C'est quelque chose qui doit sortir de nous. C'est vraiment du quelque chose que l'on donne, tandis que recevoir un prix, c'est justement quelque chose que l'on reçoit. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes rapports. Et
voilà. Sans vouloir faire du tout de jeu de mots foireux ou un peu en dessous de la ceinture, ce plaisir d'écrire, ce plaisir de créer, c'est quelque chose d'individuel. Je ne vais pas dire solitaire, mais bon, voilà. Je l'ai dit, oups. Ouais, je fais des blagues. Ce serait bien que quelqu'un mette un peu de musique à chaque fois que j'en fais une.
Faire la batterie à la bouche.
Voilà. Est-ce que vous envisagez parfois de créer à plusieurs, de d'être à quatre mains ou Oh non, non, Pierre.
C'est toujours mieux quand on est en groupe. 6, 8, 14.
Des chiffres pairs.
Donc, le thème de cette table ronde était plaisir d'offrir, joie de recevoir, comme vous l'avez compris. Donc, créer des. Alors là, pour le coup, je pense que. Moi, je connais très bien un couple d'auteurs, Gérard et Anne Guéraud, qui signent Ange et qui travaillent vraiment ensemble, qui ont été un couple et qui maintenant sont un duo. Et donc, même au-delà de leur vie. Personnel, ils continuent à travailler ensemble, donc ils y arrivent très bien. Là, moi, pour l'écriture, j'ai du mal à envisager de faire ça autrement que tout seul, je dois reconnaître. Mais je suis en train de travailler sur un sérieux de bande dessinée, où donc je vais collaborer, mon talent étant absolument nul en dessin, je vais collaborer...
Les petits bonhommes bâtons,
pourquoi ? Voilà. Et je vais collaborer à l'évidence avec un illustrateur d'ailleurs de talent. Il va y avoir une collaboration et je suis assez curieux. Parfois même j'apprends, préhende un peu de voir comment cette collaboration va se passer. Bon, il est très talentueux, j'ai pleinement confiance dans son dessin, mais peut-être qu'on ne va pas être d'accord à un moment ou à un autre. Et là, en l'occurrence, il faudra bien qu'on décide.
Peut-être que dans un an, Pierre reviendra en disant « Je ne me suis pas du tout fait plaisir, la BD ne verra pas le jour » ou « J'ai tué le dessinateur ». Non, Pierre n'est pas violent. C'est héros, oui.
Je suis plus lâche que violent. En fait. C'est...
Alors ça revient souvent ce thème, hein. On a eu tout à l'heure avec Gabriel Katz dans la partie baston, c'est je voudrais bien être violent et je voudrais bien bastonner des gens, mais il faudrait qu'ils soient plus petits et moins forts que moi.
Et moins nombreux.
Bah, moi je travaille depuis 10 ans avec quelqu'un sur les BD, mais c'est pas pareil, écrire à deux et faire une BD avec un illustrateur ou une illustratrice où tu fais le scénario, c'est quand même beaucoup plus facile que d'écrire vraiment à deux, quoi. Et moi, écrire à deux, j'ai pas fait encore, mais je crois pas que je le ferai. Parce que ben, ça fait 14 ans que j'ai les mêmes persos et les trucs en tête et tout. Et je sais qu'on va, on va commencer à partir de Traviole ou quoi. Et sur ma série animée, notamment, on a travaillé avec 7 scénaristes. Et alors là, c'était, pourtant, c'était pas de l'écriture pure, hein, c'était du scénar audiovisuel. Mais là, on a vraiment galéré. Donc, il m'a fallu 6 mois pour les cadrer, en fait, vraiment. Et, parce que d'habitude, ça ne se fait pas de mettre l'auteur en relation avec les scénaristes. Mais moi, j'avais demandé que ce soit fait pour que ça soit bien carré et tout. Et du coup, ouais, là, c'était vraiment chaud. Mais au final, tout le monde s'est pris au jeu. Puis à la fin, c'était marrant. Mais à l'écriture pure de roman, je ne ferais pas ça. Hein, parce qu'il y en a effectivement un qui va finir la tête dans un seau.
Et c'est pas le personnage.
Je sais pas qui, ça peut être moi. Hein, mais... Il paraît que je suis chiant.
Ah, t'as chiant, donc. Intraduisible, pardon. Et est-ce que vous pourriez, Brent, écrire avec quelqu'un d'autre?
I think I could write with somebody else, but I think I would drive them crazy.
Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait écrire avec vous?
Right. Yeah, it's my process seems so chaotic, and every time I think I've started to figure out, oh, this is how you write a book, I think, okay, I'm a professional now. I've done this 6 or 7 times. Surely the next one will be easy. Every book is hard in its own way, and I get stuck in different places. And I, Brandon Sanderson actually floated this idea of co-writing a book, except instead of writing it together, you would write it against each other. And I liked that idea. So you'd have two characters fighting against each other, and you would switch back and forth between points of view. So I'd write one chapter from this assassin, and then he'd write that chapter. And you'd fight each other. Except if I did that, Brandon would be done in 2 days, and I would take 2 years. So.
With who?
Brandon Sanderson.
Oui, alors je pourrais, je pense, mais je pense surtout que je rendrais l'autre complètement fou. Parce que moi, ma façon d'écrire un roman est assez chaotique. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je me dis, bon, ça y est, maintenant, je l'ai fait 6 ou 7 fois, je sais comment ça fonctionne, je vais y arriver. Bah en fait, à chaque fois, le roman d'après, c'est « Ah non, en fait, c'est pas si facile. Je me retrouve coincée à certains endroits. Et du coup, on avait eu cette idée avec Brandon Sanderson qu'on pourrait peut-être écrire ensemble, mais l'un contre l'autre, en fait.
Je vous laisse vous arrêter sur le moment Brent Wicks, Brandon Sanderson en train d'écrire un bouquin ensemble. hein
Donc oui, alors on envisageait plutôt d'écrire l'un contre l'autre, donc genre on pourrait avoir chacun notre personnage et chacun notre point de vue, et puis comme ça ce serait un personnage, enfin ils lutteraient l'un contre l'autre pendant tout le roman, sauf que le problème c'est que Brandon Sanderson au bout de 2 jours il serait barré, moi j'y serais pour 2 ans, donc non, c'est pas la peine.
Parce que Brandon Sanderson c'est un peu the writing machine quoi, la machine à écrire et à produire du roman. Alors puisqu'on a maintenant établi que chacun fait son petit truc dans sa cuisine tout seul dans son coin, est-ce que justement les gens peuvent concevoir que vous êtes des personnes sérieuses même quand on fait des choses pas sérieuses, John. Est-ce que c'est compliqué de convaincre les gens que quand on fait de la création et qu'on crée des choses qui leur font plaisir, on est quand même quelqu'un de sérieux. C'est assez étonnant. Par exemple, un cuisinier qui fait quand même qui fait de la nourriture pour nous faire plaisir, c'est un plaisir gustatif. Personne n'a de mal à le prendre au sérieux. Il y en a même qui ont une grosse tête, quoi. Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre, alors que vous mettez autant de temps à produire des choses, que les gens aient du mal à croire que vous faites un vrai métier, que vous êtes des gens sérieux?
Tu te réfères au fait que pas mal de gens disent « Ouais, mais alors eux, ils écrivent, c'est pas vraiment un boulot. »
C'est ça.
C'est ça, hein. Oui, parce qu'en plus, la recette de cuisine, souvent, bon, dans le pire des cas, tu mets 3 jours à la faire, alors que nous, les livres, enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, je mets 9 mois. Hein. Ouais, donc, alors, bon, effectivement, moi, j'écris des trucs pour me faire plaisir, mais c'est quand même un putain de boulot, quoi. Effectivement, il faut se lever, il faut se mettre au taf. Et puis, tu as parfois, pour arriver, alors, tu as plus ou moins parlé de ça, pour arriver à une séquence que tu as en tête, tu peux passer par 18 pages de ce que moi j'appelle des charnières à écrire qui sont que tu dois rendre intéressantes en plus et qui sont super éprouvantes parce que toi tu veux juste arriver à cette séquence là que t'as en tête où il se passe un truc spécial et tu dis ah, 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 et puis tu dois écrire tout ce qu'il y a avant quand même et quand effectivement les gens ils disent mais toi t'es écrivain, tu t'amuses, ouais effectivement on prend quand même difficilement au sérieux. Bon, bah, tant pis pour eux, parce que moi, c'est pas grave, ça me chagrine pas.
Hélène, est-ce que vous pensez avoir du mal à ce qu'on vous prenne au sérieux avec. Je me rappelle, il y a récemment un petit dessin qui est apparu sur Internet pour parler de la profession d'illustrateur, et ça s'applique aussi aux auteurs. On voit une grotte avec une grotte façon Lascaux, avec un homme de Cro-Magnon qui dessine sur son mur ce qu'on trouvera des siècles plus tard. Et derrière lui, il y a un autre homme en peau de bête et qui lui dit « Et en dehors de ça, vous avez un vrai métier, cueilleur, chasseur ?» Donc ça n'a pas changé, hein. Vous continuez à être des saltimbanques qui ne font pas de vraies professions. C'est compliqué à gérer Est-ce qu'il vaut mieux dire à sa mère qu'on est, je sais pas, caissière chez Carrefour plutôt qu'illustratrice ?
Faut s'imposer, quoi. Faut dire ce qu'on a envie de faire et puis assumer et dire non, bah, c'est mon vrai métier. Et puis bon, généralement, on peut avoir la répartie et dire ah oui, et vous, architecte, c'est votre vrai métier ou vous avez autre chose à côté ? Ça marche.
Pierre.
Alors, j'ai eu droit à ça, bien sûr, hein, tous, on est passé par là, est-ce que tu as un vrai métier à côté alors qu'il suffirait de poser la question, est-ce que tu as un autre métier ? Et c'est plus du tout vexant, il suffit d'un mot, quoi. Mais moi, ce qui m'agace le plus maintenant, parce que ça, j'y suis habitué, c'est, alors, tu vides ta plume, mais quelle chance ! Mais j'ai pas gagné à la loterie. Il n'y a personne qui est venu pour me dire « Bonjour, vous avez gagné, vous êtes romancier professionnel. » Merci. c'est pas de la chance. Que ce soit un peu rare, exceptionnel, pas fréquent, moi je veux bien, mais c'est pas de la chance.
On ne va pas reparler de vos débuts, Brentwix. C'est 3 fois aujourd'hui, ça suffit.
Non. I find that people take you a lot more seriously after you sell a couple million books.
Donc personne ne vous prend au sérieux pour l'instant, c'est ça que vous êtes en train de me dire?
Nice. It's
okay. Donc je trouve que les gens vous prennent quand même beaucoup plus au sérieux quand vous avez vendu quelques millions de livres.
Donc je lui ai dit, donc personne ne vous prend au sérieux.
Ouais, sympa.
I've decided actually, no matter how successful you are, people are still going to say, "Oh, you're a big bestseller." Oh, but in fantasy, like people will take it away from you if you let them. And it's like, you know what? I'm doing what I love. You go to your boring ass day job and do that. And even if things are lean, I'm doing what I love, and it's meaningful. So, if you don't like it, you're probably just a little bit jealous.
And I'm going away in my Cadillac. Bye!
Donc, même si vous avez un grand succès avec vos romans, que vous faites des best-sellers, on vous dira toujours, ouais, mais un best-seller en fantasy. Oui, les gens essaieront toujours de vous enlever ce que vous avez quelque part. Et bah ouais, mais techniquement, moi, je fais ce que j'aime. Alors, vous, avec si quelqu'un vous dit ça et que lui, il a un boulot super chiant dans un bureau et que bah moi, ce que je fais, j'adore et ça a un sens pour moi. Et je pense que souvent, les gens qui font ce genre de remarques sont tout simplement jaloux.
Et donc, John, lui, s'en va au loin dans sa Cadillac.
Alors, non, pas moi parce que j'ai pas le permis. Mais lui.
Bon, et est-ce que finalement, une lecture plaisir, même s'il y a de la création derrière, et il y a de la création derrière beaucoup de choses, est-ce que c'est comme un bon whisky, un bon cigare, une bonne bouffe, une... je vais pas finir. Non, non, John. Non, non, non. Oh, non, non, non. Non, non, non. On ne donne pas le micro à John.
Un bon whisky, il faut au moins 12 ans déjà. Donc, j'espère que les bouquins sont un peu moins longs à écrire que ça.
Je ne sais pas, on peut parler d'un auteur en particulier.
Mais oui, à côté de ça, j'espère. Enfin, je sais que moi, il y a des livres que j'adore, que je peux relire et avec qui c'est des sortes de rendez-vous. Ils ont jalonné ma vie, ils ont compté pour moi et je les redécouvre régulièrement. Et là, oui, il peut y avoir, je pense, une sorte de plaisir d'esthète à retrouver certains grands textes, comme on a plaisir à retrouver un bon single malt ou autre.
Non, mais non, j'allais parler du sujet. Non, moi, en tant qu'écrivain, je trouve que le plus grand plaisir, c'est le plaisir de rencontrer le lecteur hyper content. Ou le lecteur auditeur, ou quel que soit le truc, parce que bon, j'ai diverses activités, toutes plus grotesques les unes que les autres, d'ailleurs. Mais quand tu donnes un concert de musique, bon, dans mon cas, c'est toujours le donjon de Nahelbeuk, évidemment, mais que tu as des gens qui viennent te voir et qui disent « C'est mon premier concert, c'est trop génial !» Ou alors, quand tu lis, tu vois un livre...
Est-ce qu'on peut expliquer à Brent ce que tout le monde ici peut faire, ce que les gens font à John, à savoir « Poulet, poulet,
piou, piou, piou !»
Et il trouve ça sympathique.
Je crois qu'il est temps que je rentre aux États-Unis, en fait.
Yeah, ok. Donc, là, c'est pas grave, on se reverra à troller les légendes. Le fait est que quand tu as vraiment des lecteurs, tu vois un livre arriver, par exemple, il est défoncé, le bouquin, et il a les pages qui s'en vont et tout. Puis Non, mais le gars, il vient faire signer son livre, et je dis combien de fois tu l'as lu ? Il fait je l'ai lu 6 fois, mais je l'ai prêté à ma tante, mon frère l'a lu 4 fois. Et tout, et là t'es fait waouh. Et moi là c'est du plaisir parce que tu dis en fait il a passé presque autant de temps à le lire que moi je l'ai passé à l'écrire, quoi. Et donc voilà, ça c'est vraiment du gros plaisir, quoi. C'est vrai. Tu dis bon d'accord, je me suis cassé le tronc, je suis resté 7 mois devant mon ordinateur, je suis pas bronzé parce que je suis pas sorti, mais c'est génial.
Hélène, déjà ce genre d'expérience où des gens viennent faire... Non, pas poulet.
Non.
Des numéros de cabaret, peut-être?
Pas encore.
Ah, ça va venir.
Malheureusement. Mais oui, je suis assez d'accord avec John. Et c'est vrai que là aussi, au niveau du plaisir, les retours que j'ai pu avoir sur le cabaret, quand des lectrices me disent que l'histoire de tel ou tel personnage les a vraiment touchées, parce que ça pouvait leur rappeler une expérience vécue ou autre chose, ou qu'elles s'étaient retrouvées dans certaines épreuves. C'est vraiment, vraiment très touchant. Et là, c'est un vrai plaisir, parce qu'on se dit, oui, là, il y a vraiment eu un dialogue, un échange à travers le livre, sans pour autant que je sois en face de la personne. Et c'est vraiment merveilleux. Là, c'est le vrai plaisir, tout à fait.
Brent, pour vous, même avec des lecteurs qui ne parlent pas forcément la même langue que vous, est-ce que l'échange et le partage se fait?
It seems like it is. It's baffling to me and really wonderful that my words can touch people. And maybe for some it's just entertainment. It's just that was a good book, that was fun. And for others that it's something deeper and it's something more. Every once in a while I'll get an email from somebody and they said, this is what your book meant to me. It got me through this hard time in my life. And that happens not just in English, but happens in languages I can't even speak, is baffling and wonderful and a total privilege.
Okay. Seulement 2 fois en 4 jours, c'est juste...
je crois, oui, que l'échange se fait. Moi, ça m'épate vraiment. Ça me fait vraiment plaisir de voir que j'arrive à toucher certains lecteurs. Alors, il y en a qui lisent mes romans et qui disent juste bah, voilà, que ça leur a bien plu, que ça leur a changé les idées ou quoi. Mais il y en a qui vraiment ont vécu des expériences un peu plus profondes. Et de temps en temps, je reçois un email de gens qui me disent bah, voilà ce que votre livre a représenté pour moi, parce que ça m'a permis de traverser des épreuves vraiment très difficiles. Et alors, le fait que ça se produise et en anglais et dans des langues que je ne parle même pas, ça, c'est vraiment un vrai privilège.
Ok, je crois qu'on a fait le tour. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à cette conférence, même si on n'a pas lu. Et j'espère qu'on a bien échangé, que vous avez partagé notre joie, notre bonne humeur, un peu notre fatigue aussi. Et puis, surtout, n'oubliez pas que les tests de grossesse sont distribués à la sortie.
On n'a même pas parlé de sexe, on est quand même super disciplinés. Hein.
Non, c'est pas parce qu'on le fait pas qu'on n'en parle pas.
On a parlé de la mort des personnages que les gens regrettent, etc. On n'a pas parlé des expériences sexuelles des personnages qu'on n'a pas écrites et que les lecteurs réclament. Mais ça sera l'objet d'un autre débat, je pense.
C'est ça. Revenez l'année prochaine avec vos bébés. Merci à tous.